C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Il est 6h03, ciel dégagé ce matin autour de zéro. Nous sommes jeudi 11 novembre, jour du souvenir. Bonne journée. Bienvenue au 98.5. Ben, parlons-en du jour du souvenir parce que c'est important de souligner avec reconnaissance et respect la contribution des hommes et des femmes qui ont servi. Vous allez voir dans les médias, encore aujourd'hui, une série de témoignages des gens qui ont œuvré au sein des Forces armées canadiennes dans différents pays, dans différents contextes, et qui racontent ce qu'ils ont vécu. Beaucoup d'entre eux et d'entre elles sont revenus, malheureusement, avec un syndrome post-traumatique et ont dû conjuguer. Certains ont pu s'en sortir, d'autres pas. Il y aura des cérémonies comme à chaque année, entre autres le premier ministre Trudeau et la gouverneure générale qui vont participer donc à cette cérémonie nationale du jour du souvenir. Il y a dans toutes les villes du Québec des moments où les anciens combattants peuvent se réunir. On aura pour vous justement un témoignage ce matin d'un ancien combattant, mais qui, après son service militaire, a décidé de consacrer sa vie à ceux qui, comme lui, ont servi au sein des Forces armées canadiennes, justement pour les aider à faire cette transition qui est loin d'être facile. Alors, encore une fois, si vous êtes militaire ou parent de militaire, c'est votre journée, vous le soulignez, avec beaucoup de respect, beaucoup de reconnaissance. La grosse nouvelle hier, c'est quand même l'entente signée entre la Chine et les États-Unis pour réduire les gaz à effet de serre. Mais quand vous regardez ça, c'est un geste historique parce que les Chinois sont, disons, pas un pays très militant, là, et les Américains sont pas tellement mieux. Et là, je fais même la parenthèse après le mandat du président Trump. Alors, officiellement, c'est un communiqué conjoint, ambitieux, dit-on, où la planète doit travailler ensemble pour justement réduire les émissions d'ici une dizaine d'années. Et pour la première fois, la Chine s'engage à réduire sa production de méthane, qui est un polluant quand même majeur. Et tout le monde a été pris pas mal par surprise par l'entente qui a été conclue entre les deux puissances. Et plusieurs observateurs ont dit, vous savez, les deux pays ne peuvent pas s'entendre. La Chine va devenir un jour la plus importante puissance au monde. Les Américains seront détrônés. Mais sur la question de l'environnement, c'est comme une espèce d'incontournable, les deux pays qui doivent prendre leurs responsabilités et travailler ensemble. Il reste encore deux jours à la COP26 et beaucoup de propos, beaucoup de déclarations, les Nations unies qui considèrent que les engagements ne sont pas assez sérieux et que les 10 prochaines années seront plus que déterminantes. Puis, selon à qui vous parlez, plusieurs diront qu'il est même peut-être un peu trop tard, qu'il faut préparer l'effet de ce rehaussement des températures et notamment au niveau des infrastructures, puis aussi des populations qui seront déplacées. Alors, il reste encore beaucoup à faire. Est-ce que on va dépasser le beau communiqué conjoint ou si vraiment on est capable de prendre des engagements? Et pour prendre des engagements sérieux, ça suppose des mesures pas mal plus radicales. Et est-ce que des politiciens vont accepter, par exemple, de taxer davantage, de mettre des réglementations puis des lois beaucoup plus sévères en matière environnementale? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais on verra ce qui va émaner justement de ces derniers moments de la COP26. Maintenant, parlons de ce dépôt aujourd'hui très attendu par le ministre Christian Dubé d'un projet de loi qui est présenté comme un projet de loi visant à augmenter l'offre de services de première ligne par les médecins omnipraticiens et améliorer la gestion de l'offre. M. Dubé dit, je le cite, « Ce sera une main tendue aux médecins. » Les médecins, ils voient pas tout à fait ça comme ça. C'est rare qu'un projet de loi est déposé pour te féliciter. Le projet de loi vise à permettre un meilleur accès, à faire en sorte que des Québécois qui cherchent un médecin de famille puissent en trouver un. C'est toujours la même approche carotte-bâton. J'augmente la rémunération, mais si tu ne prends pas, à mes yeux, assez de patients, je vais réduire ça de 30 %, la formule Barrette. Depuis les dernières semaines, le premier ministre Legault tape du pied. M. Dubé, lui, est un peu le conciliant. Il dit que ça passe par une entente négociée. Mais déjà, la Fédération des médecins omnipraticiens, on est convaincu. D'abord, on est surpris. On ne pensait pas que ça viendrait aussi vite. Puis on est convaincu que ce n'est pas une façon de faire qui va donner des résultats positifs. Beaucoup de médecins m'écrivent, des médecins de famille, qui sont vraiment en tabarouette. Parce que, puis, il ne s'agit pas de prendre ça du cas par cas, là. Mais des médecins qui consacrent beaucoup d'heures à voir des patients, mais pas que dans une clinique, travaillent d'hôpital, puis pourraient faire le tour. Est-ce qu'ils peuvent en prendre plus? Certains, bien sûr. On verra le détail de ce projet de loi. Mais ça ne peut pas être, espèce de petite dentelle qu'on vient déposer sur la table en disant, écoutez, on aimerait ça peut-être prévoir un calendrier. Non, tu fais un projet de loi, c'est que tu as trouvé un moyen pour améliorer l'accès. C'est pas normal qu'il y ait autant de Québécois qui attendent aussi longtemps. Puis je vais vous donner un exemple ce matin, là. J'en ai pris un au hasard dans les courriels que je reçois. Une auditrice qui m'écrit, mon conjoint et moi n'avons plus de médecin de famille depuis un an. Il nous faut renouveler nos prescriptions pour nos médicaments. Et après plusieurs démarches, on s'est rendu aux cliniques pour avoir un médecin, incapable d'en trouver un. Mon pharmacien a appelé une clinique où je me suis présenté en urgence à quelques reprises et il n'a pas voulu nous voir en disant qu'on n'était pas sur sa liste de patients pour un renouvellement de médicaments. Je fais du diabète, du cholestérol, de l'hypertension. Mon conjoint fait du cholestérol et a besoin de médicaments pour la prostate. Et là, on est découragé. Des exemples comme ça, là, j'en ai je ne sais pas combien. Alors, on fait quoi? On s'en va à l'urgence? Il y a quelque chose qui ne marche pas depuis des lunes et ça s'est exacerbé. Puis là, les médecins, certains partent à la retraite. Je voyais sur la Côte-Nord, justement, des médecins qui retardent leur retraite parce qu'il n'y a pas de relève. Alors, ce sera à surveiller aujourd'hui le dépôt de ce projet de loi. Le dossier du français maintenant, qui a été ressuscité par l'attitude arrogante du PDG d'Air Canada, Michael Rousseau. On voit que depuis quelques jours, il y a beaucoup de reportages, beaucoup de commentaires. Le Journal de Montréal, c'est du mur à mur pratiquement tous les jours, sur le dossier du français. Je suis allé voir du côté anglophone. Je trouvais ça intéressant de voir quelle était un peu la réaction. Je regarde dans The Gazette ce matin et ils sont assez d'accord, là, en général, puis pas que dans la Gazette ce matin, mais que les propos tenus par Rousseau, là, même si c'est vrai que tu peux vivre à Saint-Lambert sans parler français, puis que tu peux vivre à Montréal sans parler français, c'est un petit peu baveux d'aller lancer ça comme ça après un discours à la Chambre de commerce qui a accepté que ça se passe de même puis qui a reçu M. Rousseau comme n'importe quel autre invité. Vous savez, ils ne se sont pas outrés de ça pantoute, là. Alors là, on a peur, par contre, qu'on assiste à une chasse aux sorcières. Quand vous regardez certaines données, la présence de hauts dirigeants à la tête des entreprises, là, je pense à Couche-Tard, c'est un anglophone, c'est un Américain même, je pense. La Banque Laurentienne, c'est une femme qui est présidente, qui promet d'apprendre le français. Il y a également SNC-Lavalin. Vous avez CGI. Si on fait le tour des grandes entreprises, des géants québécois, vous allez retrouver des unilingues anglophones. Puis moi, on me parle même de compagnies d'assurance créées au Québec. Et c'est sûr que ce sont des entreprises qui ont pris du volume et que l'anglais fait partie de la langue de travail au quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va faire une espèce de chasse aux sorcières? Est-ce qu'il y a des moyens d'inciter pour que le français soit davantage respecté? Et là, il y a une motion qui a été présentée par Québec solidaire, justement, pour convoquer les patrons de couche-tard de CGI puis de la Banque Laurentienne devant une commission parlementaire. Puis ça a été rejeté. En même temps, article ce matin de Radio-Canada sur la qualité du français au cégep. Constat qui n'est pas très, très jojo, là. Pauvreté du vocabulaire, méconnaissance de l'orthographe et de la syntaxe, inquiétude chez les profs. Non seulement le français ne s'améliore pas, mais ça a tendance à perdre en qualité. Et là, vous avez des profs qui témoignent. Puis là, on parle de francophones qui fréquentent le réseau français, là. On a dans nos classes qui nous arrivent du secondaire, on parle de profs au collégial, et c'est fort comme expression, des analphabètes fonctionnels qui ont de la difficulté à percevoir l'ironie ou le sens figuré. Comment voulez-vous enseigner la littérature ou la philosophie? Les étudiants forts sont toujours forts, donc les bons, les meilleurs sont toujours bons. Mais quand on arrive au milieu, puis vers le bas, ben là, c'est une catastrophe. En absence de maîtrise correcte du français. Et puis, en ajouter au débat, là, dans Le Devoir ce matin, des nouveaux arrivants qui veulent apprendre le français, on leur a promis, semble-t-il, 200 $ par semaine pour être capable de vivre pendant qu'ils suivent les cours d'apprentissage à temps plein. Les délais de traitement, c'est toujours pareil, vous allez me dire, là, les délais de traitement de leur demande d'aide financière sont cependant si longs que des nouveaux arrivants passent des mois à étudier sans avoir un sou. Tu sais, t'annonces, toujours pareil, t'annonces un programme, on va vous payer, vous allez apprendre le français, vous allez faire ça à temps plein, vous allez subsister. Une maigre pitance. Puis là, on est pogné dans la machine bureaucratique. Les allocations vont finir par arriver. Au total, plus d'une dizaine de personnes de 5 régions différentes ont témoigné au Devoir, justement, sur le fait que le chèque n'était pas au rendez-vous. Pneus, on parle du prix de l'essence. Là, pour les pneus, j'en ai glissé un mot au début de l'émission. J'ai reçu pas mal de courriels. On sait que la date, c'est le 1er décembre. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais on est le 11. Beaucoup de garages affichent complet. C'est-à-dire que les gens ne prennent plus de nouveaux clients. Ils sont débordés, entre autres aussi, comme partout ailleurs, par le manque de main-d'œuvre. Alors, il arrive quoi si vous n'avez pas de rendez-vous et que vous n'êtes pas capable d'en avoir? Je comprends que ce n'est pas partout pareil. Il y a peut-être des grandes surfaces qui sont équipées pour recevoir. Mais je reçois des courriels ce matin de gens qui font des démarches pour obtenir un rendez-vous puis ils n'en trouvent pas. Puis j'ai des garagistes qui cherchent la main-d'œuvre, qui disent on pourrait en faire plus, mais il n'y a pas assez de gens qui veulent travailler. On a beau faire des appels, afficher des offres d'emploi, ça ne fonctionne pas. Alors, vous continuerez à m'écrire pour me dire un peu comment ça se passe dans votre garage, pardon, puis dans vos démarches pour faire poser vos pneus. C'est un petit rappel comme ça qui est le 1er décembre. Maintenant, dans la presse, on raconte l'histoire ce matin d'étudiants du collège Maisonneuve à Montréal qui dénoncent l'usage répété du mot commençant par un N par une enseignante. Et là, c'est toujours dans quel contexte ça s'est fait, puis pourquoi ça a été fait, puis c'était quoi l'objectif du prof en question. Alors, il semble que des élèves ont décrit ce qu'on appelle un inconfort, un malaise. Ça a été publié sur le site de la Société des étudiants du Collège Maisonneuve, l'événement 15 septembre, c'est un cours de langue. Et la professeure y présentait les fonctions de journaliste. Semble-t-il, je vous donne une version, est-ce que c'est ça exactement? La professeure a d'abord lancé le débat en faisant un lien avec le livre de Pierre Vallière, Nègre blanc d'Amérique, et l'Université d'Ottawa, puis la fameuse controverse. Et elle aurait répété 9 autres fois le mot pour signifier que chacun a le droit de le prononcer. C'était pas dans le cadre, je sais pas moi, d'une insulte, non. Elle dit, le mot existe, et on peut le dire, dans la mesure où il y a un contexte, puis surtout que c'est pas dirigé contre une personne, puis que c'est pas une insulte, un commentaire raciste. Et pour beaucoup d'étudiants, notamment des étudiants noirs qui étaient en classe, ça a été perçu comme une provocation et beaucoup donc disent qu'ils ont ressenti un malaise. Ça se passe au collège Maisonneuve. La direction se défend et rappelle que la liberté d'expression dans un cadre pédagogique respectueux, et c'est ce qu'on pense qui s'est passé, doit persister. Donc, pas faire de censure et pas empêcher les profs. Et si des élèves se sentent mal à cause de ça, ben qu'ils en avisent la direction, puis ils vont essayer de trouver, semble-t-il, une forme de terrain commun d'entente possible avec le prof en question. La presse toujours nous raconte que le Québec est le champion du bio. C'est assez intéressant. Deux fois plus de terres qu'il y a 5 ans. Le Québec qui abrite la moitié de la production canadienne, donc ça a doublé en 5 ans, et les producteurs disent que la demande est exceptionnelle. Il y a eu ce virage, puis on sait que c'est un peu plus cher le bio, mais c'est assez clair que les consommateurs veulent manger local, que la proximité, c'est important, c'est un engouement, ça a commencé il y a plusieurs années, mais ça a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup. La popularité a augmenté. Quand vous allez dans les marchés publics, vous le voyez quand même assez bien. Sauf que, en même temps, la demande est forte, mais ça veut dire qu'est-ce qu'on est capable de fournir. Semble-t-il qu'en 2008, il y avait une trentaine d'admissions dans le cours d'agriculture biologique, puis on est rendu à 152. Alors, c'est une bonne nouvelle en soi, c'est-à-dire qu'on délaisse le mode traditionnel, puis on pense évidemment à l'utilisation de pesticides, pour se tourner vers une autre forme de culture. On va vous en reparler un peu plus tard ce matin. Puis puisqu'on parle de bouffe, je finis avec ça. Semble-t-il que le goût de la nourriture et les menus sont loin de satisfaire les usagers des CHSLD. On retourne à ça, mes amis. Alors, c'est un coup de sonde là, qui a été fait. 39 % des répondants se disaient insatisfaits. Des repas, tu sais. 34 % ne sont pas contents du goût. Et 33 % sont insatisfaits de l'information concernant les menus. Alors, visiblement, c'est pas bien bon. On se rappelle de la réforme du ministre Gaétan Barrette avec les repas qui avaient été modifiés. Et il y a toute la question aussi de la présentation des repas. C'est pas juste que ça goûte, mais c'est de quoi ça a l'air. Puis, il y a des... je vais passer des photos sur les réseaux sociaux. Souvent, ce sont des médecins qui mangent à l'hôpital ou qui mangent au CHSLD, là, qui partagent des repas puis qui prennent des photos. On va te dire une affaire, là. C'est-tu obligatoire que ça soit tout croche de même que t'as pas le goût de manger ça? Ça n'a pas l'air bon. Fait que déjà, en partant, peut-être que ça l'est, mais sûrement que c'est pas très, très appétissant.
L'essentiel de Paul Arcan. L'essentiel de Paul Arcan.
7h43, donc 11 novembre, jour du souvenir. Et comme je le mentionnais, les mots qui nous viennent en tête, la reconnaissance et le respect pour ces hommes et ces femmes qui ont servi. Je vais en parler ce matin avec Bruno Plourde, lieutenant-colonel à la retraite, ancien commandant du régime des Black Watch. Et depuis 2017, il est directeur des services aux vétérans pour l'organisation qui s'appelle Le Sentier. Monsieur Plourde, bonjour.
Bonjour, monsieur Arquet.
Je m'adresse à vous puis je m'adresse à tous les anciens combattants. Pour exprimer cette reconnaissance et le respect que les citoyens ont pour ce que vous avez fait, dans des conditions toujours pas faciles, j'imagine. Ma première question ce matin, c'est qu'est-ce qui vous a amené, vous, à faire votre service militaire?
Je dirais le travail en équipe, se dépasser. Travailler avec des gens puis accomplir des choses hors de l'ordinaire, je vous dirais. Beaucoup... comment je peux changer les choses? Oui, on a toujours l'image du soldat guerrier. Au Canada, on a aussi une tradition de soldat bâtisseur. Au-delà du maintien de la paix, on a toujours eu en marge de nos missions un goût des projets de développement des communautés ou dans la mesure que ça pouvait être fait dans les théâtres d'opération. Fait que je voyais ça même au tout début, dans les années 80. Puis ça m'a attiré. Fait que l'équipe, la famille régimentaire, se tenir ensemble... C'est la chose qui m'a attiré le plus.
Je regarde, là, vous avez fait 4 missions, là, vous me corrigerez, vous êtes allé en Bosnie, vous êtes allé en Afghanistan, au Congo à 2 reprises, je pense. Oui. c'est des théâtres d'opérations différents, j'imagine. C'est pas des missions identiques, là.
Sont complètement différentes chacune l'une de l'autre, autant dans le temps que l'organisme qui dirigeait, où il était l'égide. La Bosnie était, quand j'y ai été, avec l'OTAN. On était en reconstruction, à redonner des propriétés, des minés, s'assurer que le traité de Dayton était mis en application. Au Congo, ben, c'est de rebâtir ou au minimum arrêter la désagrégation d'un pays qui avait déjà beaucoup de défis. Puis l'Afghanistan, plus récent, au-delà des combats, il y avait en arrière une mission de développement puis d'aider les Afghans à trouver leur solution à la construction de leur pays. Dans mon cas, je faisais du mentorat auprès de la police nationale afghane.
Est-ce qu'il y a parfois un sentiment, j'allais dire, d'impuissance pour un militaire canadien quand on se retrouve? J'ai déjà parlé à des gens qui ont fait le service qui me disaient on est témoin d'un certain nombre de choses, mais on ne peut pas intervenir, ou on voit des situations, mais on est là, mais on a quand même un mandat qui est clairement défini.
Il va toujours avoir une déception. On veut toujours, comme personne, aider l'autre. Le militaire ne fait pas de différence. Que ce soit dans n'importe quelle mission, il va avoir un sentiment d'impuissance définitivement. La façon que moi j'ai trouvé, je ne parle pas pour mes collègues et mes frères et sœurs d'armes, c'est-à-dire, ben, si je change la vie d'une personne, d'une famille, pendant ma durée-là, ben, c'est une graine qui a été semée, c'est un espoir qui a été donné pour continuer. Même si tu ne peux pas changer complètement l'ordre géopolitique des choses.
Vous dirigez là, les services aux vétérans pour le Sentier. D'abord, parlez-moi de l'organisme. Qu'est-ce que c'est au juste? Qu'est-ce que vous offrez?
Le Sentier est un organisme qui a été créé au début des années 2019. Notre objectif, c'est de voir où étaient les trous dans la bureaucratie puis dans le soutien aux vétérans. Beaucoup de services gouvernementaux vont être en silo.
Pas très surpris, mais continue.
En fait, ça s'applique pour tout, pas juste aux vétérans.
Non.
Notre objectif, ben, c'est, au lieu d'avoir nos tuyaux sont généralement verticaux, je travaille à l'horizontale. Fait que mon objectif, c'est d'aider le vétéran, de l'accompagner, à passer à travers ces différents silos-là, puis de l'accompagner pour mieux comprendre les services qui lui sont offerts, comment l'aider à passer à travers la transition de la vie civile à la vie militaire. C'est principalement nos efforts. Puis on a des collaborateurs qui font ça avec nous autres.
Vous dites, quand l'État décide d'envoyer des militaires dans des missions, puis qu'on sait que ces hommes et ces femmes vont être confrontés à des horreurs, puis à des moments atroces, il faut s'attendre que quand ils reviennent de là, ils ont, pas tous, mais beaucoup d'entre eux, des séquelles importantes.
Tout à fait. Je cherchais un mot quand je venais vous parler. J'ai absolument le devoir de cohérence.
Ouais.
On le fait avec nos enfants, on le fait avec tout le monde. Ben, si on demande à des gens, pas juste les militaires, les premiers répondants, policiers, pompiers, hommes, femmes, qu'on envoie dans une zone hors de l'ordinaire, on devrait prendre 30 secondes puis s'assurer que quand le travail va être fait, qu'on soit pas une deuxième ou une troisième priorité. Il y en a beaucoup de priorité 1, mais le type d'engagement que les premiers répondants et les militaires prennent, je pense que ça mérite...
Est-ce que ça s'est amélioré depuis que vous en occupez?
Ça s'est amélioré pour le vivre en étant vétéran. Ouais. Je pense aussi à travers le
c'est
système.
Sûr.
Ça s'est amélioré, mais souvent, comme encore là, c'est un thème redondant, le processus est plus important que le résultat. Si le formulaire n'est pas rempli exactement comme il faut... On amène des défis. Il n'y a pas de mécanisme de transition entre la vie militaire et la vie civile dans la structure.
OK. Là, je ne sais pas s'il y a des études qui existent, mais c'est quoi le pourcentage, d'après vous, de militaires qui ont de la difficulté, justement, à faire cette transition vers la vie civile et d'un retour après ce genre de mission?
Il y a certaines études qui disent que c'est jusqu'à 60 % des vétérans. Ça peut partir de trouver un médecin de famille, un thème que vous venez d'aborder. Ça peut prendre jusqu'à 4 ans avant d'avoir un médecin, mais Anciens Combattants Canada, pour donner des services aux vétérans, demande une rencontre avec un médecin. Les médecins militaires, ben, une fois que tu es sorti, ben, tu n'es plus sur la liste, là. Fait que le gros défi, c'est ça. L'accessibilité est là, la volonté sur le terrain des équipes, au sein d'Anciens Combattants Canada, des autres organismes, est là. Mais c'est quand, anciens combattants qui avaient une routine d'émettre un chèque à un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, on a des défis de complexité de cas. Il y a beaucoup plus de choses qui arrivent. La santé mentale, c'est un exemple flagrant. Ben, comme toute machine, elle ne s'est pas adaptée à la clientèle qu'elle devait desservir. Puis maintenant, on vit une décentralisation. Qui dit décentralisation, dit se perdre dans la masse. Puis les services sont paradoxalement plus disponibles parce qu'en ligne, parce que les gens de terrain veulent le faire. Mais le processus pour obtenir ce service-là est plus long.
Monsieur Plourde, merci beaucoup d'être venu ce matin.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps.
Fait plaisir. Bruno Plourde, lieutenant-colonel à la retraite, ancien commandant du régiment des Black Watch et depuis 2017, directeur des services aux vétérans pour Le Sentier.
L'essentiel de Paul Arcan.
Maintenant, je veux revenir ce matin sur ce document de Radio-Canada concernant l'état de l'enseignement du français, mais surtout, je dirais, des connaissances de français au collégial. Puis je vous donne juste l'espèce de ligne de départ, là. Pauvreté du vocabulaire, méconnaissance de l'orthographe et de la syntaxe, des professeurs du collégial qui sont inquiets, la qualité du français tend à se dégrader chez un nombre grandissant de jeunes. Et il y a même un professeur au cégep Édouard Montpetit qui dit qu'on a devant nous des espèces d'analphabètes fonctionnels qui ont de la difficulté à percevoir l'ironie ou le sens figuré. Comment voulez-vous qu'on leur enseigne la philosophie? Alors, c'est un constat quand même assez dur sur cette situation. Régent Bergeron est avec nous, professeur de philosophie justement à la retraite. Il a écrit le livre « L'école amnésique », un essai qui portait sur les réformes qu'on a connues dans le monde de l'éducation. Monsieur Bergeron, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Arcan.
J'imagine que vous n'êtes pas surpris d'un tel constat qu'on a des étudiants qui arrivent du secondaire vers le collégial avec des connaissances très limitées.
Non, pas du tout. Et ce qui est ironique, c'est que dans le reportage d'hier, on a été plusieurs à être interviewés, puis on a fait à peu près les mêmes constats, comme vous dites, là, sur la pauvreté du langage, la méconnaissance des règles élémentaires. Moi, je parle pas de règles compliquées concernant l'accord du participe passé, là, mais des choses aussi banales que faire la différence entre on O-N et O-N-T, C-S-S-E-S, C-E-S-T, et ainsi de suite. Là. Donc, A et A, et là, à ce moment-là, c'est plus d'être dogmatique que de demander aux étudiants de connaître ces règles-là, parce que ça affecte complètement le sens du texte et la compréhension aussi des textes qu'on demande aux étudiants de lire. Donc, c'est très grave. Là.
Mais, alors... On n'aura pas le temps ce matin de faire l'histoire des 25 dernières années, là, oui. mais en gros, là, comment vous expliquez, moi j'entends toujours la même chose, là. Oui. Les profs du secondaire disent, ils nous arrivent du primaire, ils sont pas prêts, ils arrivent au collégial, ils sont pas prêts, j'ai des profs d'université qui s'arrachent les cheveux sur la tête, il y a quoi, c'est qu'on fait passer tout le monde, puis ça continue?
Oui, ben il y a sûrement ça, parce qu'on n'a plus le choix de faire passer tout le monde. Mais à la base, je crois que c'est qu'on n'insiste pas assez sur l'importance d'apprendre à lire, à écrire, à comprendre un texte et aussi à lire entre les lignes. Et ça, savoir lire entre les lignes, je rigolais souvent avec mes étudiants, bien ça demande de la culture. Moi, là, je focus sur la culture générale. Parce que pour comprendre un texte, arriver à le décortiquer, ça prend des références, une grille spatio-temporelle, comme je dis, c'est-à-dire des connaissances historiques et géographiques pour pouvoir comprendre l'ironie, par exemple, comme vous disiez tantôt, comprendre l'ironie dans un texte, là, ça demande un effort puis un bagage. Sinon, vous le prenez au premier degré. Même chose avec les analogies. Comprendre des analogies dans un texte, c'est souvent très difficile pour un étudiant. Donc, oui, il y a les méthodes. Revenir aux méthodes qui ont fait leur preuve, au lieu de laisser les étudiants exprimer leur moi profond, y aller de leur opinion et faire du blabla, il faut revenir à la base, sur ce qu'on appelle les fondamentaux. Donc, et faire en sorte qu'on leur impose des lectures sérieuses et une culture générale qui va, qui, qui, qui vont les aider tout au long de leur parcours à mieux écrire, à avoir du vocabulaire et ainsi de suite. Là. Donc, c'est tellement simple dans le fond. Là. Mais on a voulu expérimenter plein de choses et on a les résultats qu'on voit maintenant.
Quand vous parlez d'expérience, là, je vais resituer un peu ce que vous venez de dire. C'est quoi? C'est que on a délaissé, en fait, l'enseignement des bases, une méthode plus traditionnelle pour mettre en valeur quoi? Le moi de l'étudiant, ses émotions, comment il perçoit la réalité, comment il se sent?
Oui, exactement, ce qu'on appelle la communication dans le fond. Mais et ça fait maintenant ringard, ça fait vieux jeu que d'apprendre les bases de la grammaire aux étudiants. Donc parce que c'est avec suite à la réforme ou au renouveau pédagogique, ben là on a dit qu'on mettait l'étudiant au centre du projet et qu'il fallait maintenant répondre à leurs attentes, faire en sorte qu'on puisse les divertir afin que d'empêcher le décrochage. Mais évidemment, c'est une absurdité consommée. Là, il faut justement élever l'étudiant et non pas se mettre à son niveau. Tout est là. Là. Et ça, évidemment, j'en parle beaucoup dans mon essai, là, l'école amnésique ou les enfants de Rousseau. Donc, le constat est tellement simple, dans le fond, mais on a voulu bon prince et essayer de combler les attentes de l'étudiant, alors que l'étudiant, l'élève, n'est pas là pour ça. Il est là pour apprendre.
Monsieur Bergeron, j'ai une dernière question.
Oui.
Si un PDG comme celui d'Air Canada peut vivre à Montréal sans parler français, est-ce qu'un étudiant analphabète fonctionnel, qui a une maîtrise là, assez relative du français, peut se débrouiller dans la vie quand même?
De moins en moins, parce que justement, le fait qu'on a des étudiants qui sont analphabètes fonctionnels, bien ça coûte des milliards, ça, à notre à l'économie du Québec. Il y a des hommes d'affaires qui disaient qu'ils se munissent, là, ils achètent de l'équipement informatisé très sophistiqué, mais ils se retrouvent malgré eux avec des employés qui ont de la misère à lire les rapports que leur fournissent ces appareils-là. Donc, vous voyez, on s'en va vers ça, là. Les étudiants qui savent lire, qui savent communiquer, qui ne font pas de fautes, vont devenir une denrée vraiment précieuse là, pour l'avenir.
Merci, M. Bergeron. Bonne journée.
Parfait, merci.
Régent Bergeron est professeur de philosophie à la retraite puis auteur du livre « L'école amnésique » qui portait sur l'impact de ces réformes nombreuses en éducation depuis les dernières années.
L'essentiel de Paul Arcand. L'essentiel de Paul Arcand.
Ce matin, je disais la lettre de Sylvain Charlebois dans la presse concernant le vol à l'étalage. C'est assez étonnant de constater, puis là, semble-t-il, on va lui parler, là, qui a fait tour un peu de détaillants à travers le Canada, que le nombre de vols a augmenté de 25 à 40 % et qu'une épicerie de taille moyenne peut intercepter des voleurs de 10 à 12 fois par semaine. Monsieur Charlebois, bonjour.
Bonjour.
Ben, semble que c'est beaucoup, 10 à 12 fois par semaine.
En fait, pour les gens qui sont dans l'industrie, c'est pas nécessairement surprenant. Pour ceux qui sont pas dans l'industrie, c'est des chiffres alarmants, là, ça c'est clair. Mais ce qui inquiète le plus le secteur, c'est l'inflation alimentaire. Puisque les prix augmentent, on risque de voir de plus en plus de cas de vol à l'étalage dans les épiceries, malheureusement.
Et là, vous sentez ça, là, cette augmentation de 25 à 40 % depuis les derniers mois?
Ben, c'est ça. En fait, c'est toujours difficile à mesurer ces histoires-là, là, parce qu'il y a beaucoup de cas qui ne sont jamais déclarés. J'ai parlé à quelques marchands il y a peut-être un mois, et puis on m'a dit que justement, on commençait à avoir des cas de vol à Montréal, là, pas loin de chez vous. Là. Et puis là, j'ai commencé à parler à des gens à Halifax, chez nous, à Toronto, Vancouver, puis j'entendais la même histoire. Là. On voit qu'il y a une augmentation. Alors, les marchands doivent non seulement engager des agents de sécurité à l'entrée et à la sortie, là, mais on engage des agents clients, donc des gens qui sont habillés comme vous et moi, là, qui se promènent dans l'épicerie pour épingler les gens en train de voler de la viande, du fromage, des pâtés. Là. Donc, il y a une inquiétude palpable. Puis, quand on parle d'épicerie, on a affaire à des marges bénéficiaires très, très minces. Là. Et si on se fait voler, je sais pas moi, 1,5% de notre inventaire, ben c'est nos profits qui s'envolent. Là.
Il y a des auteurs qui me posent la question suivante, puis je la renvoie. Est-ce que le fait qu'on ait maintenant un libre, enfin des caisses libre-service dans les supermarchés, ça facilite le vol, ça a augmenté le vol, selon vous?
Absolument. Vous savez, les guichets libre-service fonctionnent plus ou moins bien, probablement parce que les marchands font un peu par exprès. Ils veulent avoir quelqu'un sur place, un humain là, qui surveille de très près ce qui se passe, parce que c'est sûr qu'il y a des chances qu'il y ait beaucoup plus de vols. Et puis, ce qui est un peu difficile là à surveiller, c'est que c'est toutes sortes de monde qui peut voler. Hein. C'est pas juste... les gens pensent peut-être que c'est des gens qui sont des sans-abri, des gens qui sont peut-être un peu mal habillés. Absolument pas. Là. Il y a de toutes sortes de personnes qui peuvent voler. Il y a des gens avec des maîtrises, doctorat, des gens qui sont bien habillés, en habit même, qui vont être tentés de voler pour une raison ou une autre. Là. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile de vraiment surveiller ces choses de très près. Là.
Merci, M. Charlebois. Bonne journée.
Au revoir.
Sylvain Charlebois, donc, qui est le directeur principal du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l'Université Dalhousie. Puis c'est vrai que le vol à l'étalage, là, c'est pas de stéréotype. Là. Je peux vous dire que, vu des cas où c'était des gens qui avaient même les moyens de se payer ce qu'ils volaient, puis là, on parle de la bouffe, mais on pourrait parler de d'autres items, mais c'était plus fort qu'eux. Je me souviens d'un cas, la personne traversait un magasin, grand magasin, pour aller sur un chantier de construction. C'était un agent de sécurité qui m'a raconté ça. Il passait là tous les matins. Puis, eux ont remarqué qu'il y a des items qui disparaissaient. Puis, c'est quelqu'un, là, qui était comme l'espèce d'ingénieur du chantier, donc qui avait une bonne paye, là. Puis... Et un jour, ils l'ont intercepté et il volait des items. Pas des affaires qui coûtent la totale, là. Vraiment des items, 4 $. C'était comme un... Il fallait qu'il vole. C'était plus fort que lui. C'était pas pour l'objet. Et il faisait ça, il avait remarqué son comportement. Alors, pour vous dire que ça peut évidemment toucher pas mal de monde.
L'essentiel de Paul Arcand.
Maintenant, la Société québécoise du cannabis prévoit installer une succursale, nouvelle succursale sur la rue Van Horn. C'est à Outremont. Et il y a des citoyens qui s'y opposent. Le conseil municipal est assez également... se pose beaucoup de questions. Pourquoi? Parce que le local choisi se trouve tout près de garderies, près d'un collège, près d'une piscine municipale, près d'une station de métro. Lucille Baladier est mère de 2 enfants et fait partie de ce mouvement-là pour faire changer d'idée la Société québécoise du cannabis. Madame Baladier, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcon.
Alors, d'abord, peut-être nous situer plus précisément là, le local qui a été choisi par la Société québécoise du cannabis.
Eh bien, écoutez, c'est simple. Il est juste en face de la sortie de métro Outremont, sur un angle, là où il y avait précédemment l'ancien Starbucks. Il est juste à côté d'une garderie, à 150 mètres du collège Stanislas, à moins de 500 mètres de 3 écoles primaires, du CCI. Il est très proche du nouveau campus, vous le savez. Donc, c'est vraiment un point central et névralgique au niveau de la vie étudiante et scolaire d'Outremont.
Alors, pourquoi vous ne souhaitez pas qu'on installe là une succursale de la SQDC?
Écoutez, d'abord, je trouve ça extrêmement surprenant que la SQDC ait ciblé ce local-là. S'ils ont une approche un peu morale, je trouve ça immoral et scandaleux, parce que c'est vraiment un incitatif pour nos jeunes à fumer du cannabis. On est tous, on sait que le cannabis est un problème extrêmement important chez les jeunes. On peut dire d'ailleurs que ça va augmenter avec toute la détresse psychologique des jeunes liée au Covid. Et on leur ouvre une boutique juste en face de leur nez dans un quartier familial. Moi, je sais pas, je trouve que c'est vraiment un incitatif et ça va à l'encontre de toutes les valeurs morales qu'on peut avoir et de tout ce qu'on peut espérer pour nos jeunes.
Mais je ne comprends pas
que ce soit autorisé. Hein.
Mais si je discute un peu, là, je me fais un peu l'avocat diable, on ne peut pas dire que les succursales de la SQDC sont très attrayantes. D'ailleurs, ils se vendent de ne pas avoir, par exemple, je sais pas, une vitrine où on expose des produits. c'est très rigoureux quant à l'âge des gens qui vont acheter. C'est pas une piquerie, c'est pas de la vente en plein air, là. C'est quand même réglementé, encadré.
Oui, c'est réglementé, c'est encadré, mais c'est juste à côté. Donc, les jeunes vont le voir. Vous, Monsieur Arcan, quand vous étiez jeune, même si vous n'aviez pas l'âge légal, si vous vouliez acheter quelque chose, je suis sûre que vous trouviez toujours un ami, un grand frère pour vous aider à y accéder. D'un côté, on dit qu'il faut faire des programmes de prévention dans les écoles pour prévenir les jeunes et pour leur dire qu'il ne faut pas consommer de cannabis. Et d'un autre côté, on va leur mettre une boutique sous le nez. Moi, si j'étais au collège, que quelqu'un venait à un programme gouvernemental pour me dire « Attention, le cannabis a des effets irréversibles sur votre cerveau, n'en consommez pas, ça va avoir un impact sur votre mémoire, votre concentration, ça peut développer des psychoses », je lèverais la main et je disais « Alors pourquoi vous installez une boutique à 100 mètres de l'école ?» Quelle est la logique de ça? Je ne suis pas contre les succursales de la SQDC, mais pas une succursale aussi centrale par rapport à toutes les écoles, les CPE, sans compter l'odeur qui va s'en dégager. On va passer, il va y avoir des gens qui vont fumer autour. C'est un mauvais exemple, c'est un incitatif, sachant qu'on sait que le problème du cannabis est dramatique chez les jeunes. Il y avait une étude qui était sortie au moment de la légalisation, entre 26 et 36% des jeunes de 15 à 24 ans consommaient du cannabis régulièrement. Là, on vient les inciter, et en plus c'est proche du nouveau campus, je veux dire, c'est une approche commercial. La SQDC, en fait, c'est une entreprise qui veut faire du chiffre d'affaires et qui a vu un marché captif et qui saisit une opportunité. Alors que la SQDC, au départ, c'était fait pour enrayer le marché noir, pas pour faire la promotion du cannabis chez nos jeunes.
Maintenant, est-ce que techniquement, légalement, la SQDC peut ouvrir une succursale dans le local qui a été choisi? Parce que il y a la question du zonage, mais il y a aussi, comme vous dites, la proximité d'établissements scolaires, là.
Absolument. Alors, c'est ça qui est très surprenant. Oui, ils ont le droit légalement parce que il y a un article, là, j'ai décortiqué, l'article 33 de la loi qui encadre le cannabis déclare que la SQDC peut exploiter un point de vente de cannabis, ne peut pas exploiter un point de vente de cannabis à proximité d'un établissement scolaire, mais la distance minimum à Montréal, c'est 150 mètres. Donc, c'est une vraie blague, déjà, on s'entend, 150 mètres. Et le zonage le permet, la demande de permis a été déposée, donc légalement, finalement, ils sont dans leurs droits légaux, mais est-ce qu'ils sont dans leurs droits moraux? Ça, c'est une autre question. C'est pour ça que nous, parents, on se mobilise à Outremont, mais j'incite les autres parents des autres quartiers à se mobiliser pour dire que c'est pas normal. Non seulement c'est pas normal vis-à-vis de nos jeunes, c'est pas normal moralement, puis c'est pas normal qu'une entreprise comme ça cible un local situé à cet endroit-là, près des écoles, à la sortie du métro, visiblement juste pour faire du chiffre d'affaires.
C'est clair. Merci, Mme Baladier. Bonne journée. Lucille Baladier est mère de deux enfants de la baie d'Outremont. Puis, donc, c'est un local, oui, techniquement, ils peuvent le faire. Mais c'est vrai qu'à proximité, il y a quand même garderie et autres collèges. Marquez que ça prend 21 ans pour y aller, aux dernières nouvelles, là. Et puis je sais que les contrôles sont très rigoureux aussi. Ça va être ça le point de défense de la Société québécoise du cannabis. Puis comme dirait l'autre, quand tu passes devant, il faut que tu sois bien sûr que c'est ça, parce que c'est pas... on n'est pas avec les spéciaux, le pot en 50% de rabais non plus. Mais c'est vrai que ça amène peut-être une clientèle, hein, fumée dehors, près d'école. C'est peut-être pas l'idéal, mais c'est sûr que c'est, disons, l'économie qui motive.
L'essentiel de Paul Arcand.